Pour ce matin, on va continuer dans le livre des Actes avec un texte un peu humoristique, en tout cas sur un certain plan. Bon, malheureusement, c'est quand même des situations qu'on rencontre de temps en temps et du coup, ça nous fait un tout petit peu moins rire. C'est le récit du premier procès de l'apôtre Paul, si on ose dire ça comme ça, devant le Sanhédrin ou le Grand Conseil de Jérusalem. Jean-Yves nous a présenté le deuxième procès, celui qui vient juste après. Et puis dans 2 semaines, je vous présenterai le troisième, devant le gouverneur Festus. C'est un épisode qui nous donne un bon exemple d'un débat à sens unique. Je pense que vous avez tous vécu ça une fois ou l'autre. Avec la question très pratique, comment dialoguer avec des gens de mauvaise foi? Comment tenter de dire quelque chose de positif lorsque personne ne nous écoute? Et je trouve que l'approche de Paul est assez inspirante et assez originale, finalement. Jean-Yves, dimanche passé, nous a présenté un exemple où Paul est accusé à tort, mais dans une situation où il peut encore discuter, on va dire comme ça. Ici, on voit qu'il est accusé toujours à tort, bien sûr, mais à un endroit où le débat est juste impossible. Et vous voyez qu'il va utiliser une stratégie un petit peu différente. Alors, je vous invite d'abord à prier. Et ensuite, on lira une partie de ce texte dans le livre des Actes. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour tous ces exemples concrets qui nous aident à comprendre comment, quelque part, comment fonctionner, comment être en tant que chrétien dans les différentes situations de la vie pratique. Je vois qu'il nous arrive parfois d'être dans des débats qui sont très frustrants, où on a l'impression que chacun parle et que ça se croise sans que personne n'écoute. Aide-nous, Jésus, à faire notre possible pour qu'on s'entende. Aide-nous aussi à savoir être sage dans la manière dont on prend la parole. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, tout à la fin du chapitre 22. On va lire juste les 2 derniers versets du chapitre 22, ou même le tout dernier verset d'ailleurs, et puis les 11 premiers versets du chapitre 23. Juste avant, Paul a été arrêté, il a été interrogé par le commandant romain, et on a ici la suite. C'est pourquoi, dès le lendemain, il voulut éclaircir l'affaire et savoir au juste de quoi les Juifs accusaient Paul. Il le fit délier, et après avoir convoqué les chefs des prêtres et tout le grand conseil, il le fit descendre et le plaça en face d'eux. Paul fixa ses regards sur tous les membres du Grand Conseil et déclara « Mes frères, j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. » Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors « Dieu lui-même va te frapper, muraille blanchie. Tu sièges là pour me juger selon la loi et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » Les assistants s'écrièrent « Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu ?»« Frère, reprit Paul, j'ignorais que c'était le grand prêtre, car je sais bien qu'il est écrit « Tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Paul savait que le conseil était composé pour une part de sadducéens, pour l'autre de pharisiens. Il s'écria au milieu du conseil « Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Si je suis mis en accusation, c'est pour notre espérance de la résurrection. » Ces mots provoquèrent une dispute entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa en 2 camps. Les sadducéens, en effet, déclarent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ou d'esprit, et les pharisiens affirment le contraire. Le ton monta considérablement. Quelques spécialistes de la loi, qui étaient du parti des pharisiens, se levèrent pour protester avec énergie en faveur de l'accusé. « Vraiment, nous ne trouvons rien à reprocher à cet homme. Après tout, qui sait? Peut-être qu'un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ?» La dispute s'envenimait et le commandant craignit que son prisonnier soit tué par ses gens. Alors il fit signe à un détachement de soldats de descendre dans la salle pour tirer Paul du milieu d'eux et le ramener à la citadelle. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois à Rome. » Voilà. Donc je pense, alors ça vous est sans doute jamais arrivé d'être en procès et que ça se passe comme ça, on insulte de part et d'autre. Mais vous connaissez sans doute ces situations-là, où on dit un mot et toute la situation part en vrille. Paul est ici très habile, en fait. Il est un peu seul contre tous et il arrive à créer une faction à l'intérieur du Sanhédrin. C'est un peu divisé pour mieux régner, vous voyez. Il utilise une réalité assez humaine. Il y a des thèmes chauds et des mots piégés. Et puis, quand on les lance, hop, tout le monde se focalise là-dessus et oublie complètement pourquoi on est là. Alors, avant de parler un tout petit peu plus de la situation, j'aimerais parler rapidement un peu du Sanhédrin. Dans vos Bibles, vous avez soit Sanhédrin, soit Grand Conseil ou Conseil. C'est une sorte de tribunal juif qui a été instauré par les Perses. Donc, c'est à peu près 400 ans ou 500 ans avant cet épisode. Au début, c'est surtout une cour suprême qui est là pour arbitrer les litiges très graves que les juges locaux ne sont pas habilités à traiter. Mais au temps de Jésus, c'est une sorte d'assemblée politique, une sorte un peu de gouvernement bis. Le gouverneur officiel, c'est évidemment les Romains. Et puis, les Juifs ont mis en place, voilà, le Sanhédrin est devenu un peu leur parlement, je ne sais pas qu'il faut dire ça, un parlement autonome, oui. Le Sanhédrin possède d'abord, d'ailleurs, sa propre police, et on voit dans les textes des évangiles qu'ils sont surtout préoccupés de maintenir l'ordre dans le temple et aussi d'éviter les émeutes. Parce qu'ils savent bien que s'il y a une émeute, les soldats romains risquent de réagir de manière assez brutale. Alors, pour la petite histoire, le Sanhédrin est composé de 70 membres, plus le souverain sacrificateur, donc le grand prêtre, qui est le président de la séance. Dans ce groupe, ce n'est pas un groupe qui est élu. On a plus l'habitude, nous, hein, à faire des élections. Hein. Il y a en fait trois groupes qui ont droit à un certain nombre de représentants. C'est plutôt la Chambre des lords, si vous voulez, que le Parlement. Hein. Alors, le premier groupe, c'est le groupe du grand prêtre, des anciens grands prêtres et de leur famille. C'est un peu le haut clergé, si on veut utiliser le terme de la Renaissance chez nous. Ce sont aussi une sorte de noblesse, parce que ce sont les descendants des rois asmonéens, qui ont régné à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ. On sait que ce groupe est surtout composé de gens qui ont comme conviction religieuse la position sadducéenne. Il y a un deuxième groupe, qui est le groupe qu'on appelle le groupe des anciens. Ce sont les chefs des tribus, les chefs de famille ou les chefs des classes de prêtres. Leur fonction d'aujourd'hui correspondrait en gros à celle de maires, de notables locaux ou de représentants des associations professionnelles. Et puis il y a un troisième groupe qui est le groupe des scribes. En gros, pour aujourd'hui, c'est les notaires, les juristes, les avocats, les huissiers. Ce sont trois groupes qui ont des intérêts divergents et qui sont souvent en conflit. Pour compliquer encore la chose, il y a ces trois groupes, mais ces trois groupes, à l'intérieur de ces groupes, il y a deux grandes tendances religieuses. C'est juste pour compliquer un peu les choses. Avec les pharisiens et les sadducéens, dont on parle dans ce passage notamment. Alors, dans le premier groupe des grands prêtres, ils sont pratiquement tous sadducéens, semble-t-il. Les deux autres groupes sont un peu, voilà, répartis. On ne sait pas exactement quel pourcentage il y a de sadducéens ou de pharisiens dans le Sanhédrin. Les sadducéens, ce sont un peu les intellos de l'époque, très attachés à la raison. Ils se revendiquent de la descendance de Tsadok. C'est pour ça que ça se prononce sadducéen. Bon. Tsadok, c'était le grand prêtre du temps du roi David. Tu vois qu'ils sont relativement modestes. Hein. Dans leur position, ils s'appuient uniquement sur les écrits de Moïse, donc les 5 premiers livres de la Bible. Ils ne croient pas à la résurrection des morts parce qu'ils considèrent que dans ces 5 premiers livres, on n'en parle pas explicitement. Ils ne croient pas non plus au jugement dernier, aux anges, etc. Ils pensent que les hommes doivent payer leurs fautes sur cette terre, et c'est pour ça que ce sont des juges extrêmement sévères. Sur beaucoup d'aspects, on le voit dans les évangiles, ils privilégient la politique sur la religion, et ils se montrent souvent très très ouverts aux coutumes grecques. Pour eux, ils sont l'élite intellectuelle et culturelle de la nation. Dans la suite de l'histoire, après la mort de Jésus, ils vont adhérer en grande partie aux théories d'Aristote, et se détacher complètement de la Bible. Le deuxième groupe, c'est les pharisiens. C'est un mouvement qui est né en grande partie en réaction face aux sadducéens. Vous savez, c'est comme ça souvent que ça se passe. Hein. Quand quelqu'un dit quelque chose, il y a un groupe qui... Voilà, bon. Ils reprochent aux sadducéens d'avoir renoncé aux coutumes juives pour s'attacher aux coutumes grecques. Eux sont très attachés à la Bible et à l'ensemble de la Bible. Mais ce qu'ils étudient dans la Bible, ce sont surtout les commandements, les ordres. Ils sont prêts à faire de gros efforts pour mettre en pratique la loi dans la vie quotidienne. Et pour observer la loi, ils vont ajouter beaucoup de prescriptions supplémentaires, encore plus sévères, pour être sûrs de respecter la loi. Ils vont d'ailleurs rédiger toute une série de codes de comportement selon Dieu. La vie spirituelle, pour eux, est une sorte de règle à suivre bien plus qu'une vie spirituelle, comme on le dirait aujourd'hui. À l'époque de Jésus, ce mouvement des pharisiens domine la vie religieuse juive, et puis d'ailleurs, c'est encore le cas jusqu'au XXe siècle. À l'époque de Jésus, les prédicateurs des synagogues, ce sont des laïcs, ils adhèrent très massivement à ce mouvement-là. Et on voit que la plupart des disciples de Jésus sont très marqués par le mouvement des pharisiens. Ils croient à la prédestination, à l'immortalité de l'âme, ils croient à des récompenses et des punitions dans l'au-delà, et ils ont toute une théorie extrêmement complexe autour des anges, des démons et des miracles. Mais le centre de leur foi, c'est observer des règles. Et on le voit dans les évangiles, beaucoup des pharisiens se sont convertis après la résurrection de Jésus parce qu'ils sont très sensibles justement aux miracles. Et on le voit d'ailleurs dans ce passage-ci, ils sont prêts à dire « si un ange a parlé, alors on est prêt à mettre de côté tout le reste ». Alors, à l'époque de Jésus, il existe d'autres mouvements religieux et d'autres mouvements politiques, mais qui ne sont pas représentés dans le Sanhédrin. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas un vote, hein ? On parle par exemple des Esséniens ou des Zélotes, ils n'ont pas de représentants dans le Sanhédrin. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu historique. On va revenir au texte de la Bible. Alors, la première chose à mentionner, c'est que, on le mentionne même ici, Paul connaît très bien le Sanhédrin. Et il va quelque part organiser sa manière de parler, quelque part en fonction de ce qu'il sait. J'ai marqué ça, quand le débat est piégé, dans tous les cas, anticiper, se renseigner et se préparer. Quand un débat est piégé, il vaut mieux un peu réfléchir comment on peut avancer. Et on va parler un peu des deux approches possibles. L'approche qu'on voit dans ce texte, c'est l'approche où on est en cas de danger. J'aimerais parler aussi de l'autre approche, l'approche plus habituelle. Jean-Yves l'a déjà développée dimanche dernier, donc j'ai juste à reprendre ce qu'il nous a dit. Paul connaît très bien le Sanhédrin, il a été proche d'ailleurs de plusieurs membres influents du Sanhédrin, et il sait très bien que le mot résurrection, c'est le mot piégé. Il suffit de le balancer dans la salle, et ça va partir en vrille, et du coup, ils oublient complètement pourquoi ils sont là. Ça arrange bien Paul, parce que pourquoi ils sont là ? Ils sont là pour condamner Paul à mort. Donc Paul, ça l'intéresse bien de sortir du débat et de partir sur autre chose. On comprend bien, hein ? Maintenant, on connaît bien ce type de mécanisme, parfois dans les âgés d'église, mais surtout dans les familles. Il y a des mots piégés où, si le mot apparaît quelque part, oups, on sait que ça va complètement partir en vrille. Vous voyez ici que, alors très souvent, ça se passe sans du tout qu'on l'ait choisi. Hein. Ça dérape et on sait plus comment rattraper le truc après. Vous voyez ici que pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose qu'il a préparé, qu'il a choisi. Il ne veut pas être enfermé dans une approche « les chrétiens contre les juifs ». Il y a peut-être 3 ou 4 chrétiens dans la salle. Bon, il est un petit peu en minorité, là. Hein. Il va déplacer le débat pour que le débat soit sur la question de la résurrection, et donc, ça soit ceux qui croient en la résurrection contre ceux qui n'y croient pas. Du coup, il est soutenu par les pharisiens. On voit que certains pharisiens prennent même position en sa faveur. Vous voyez, une approche qui est très utile quand on est en réel danger. Bien sûr, quand le but, c'est de discuter et d'arriver à un accord, c'est pas la bonne approche, hein. Dans cette approche-là, il suffit de lancer le mot piégé et chacun va partir sur son disque. Vous savez, vous connaissez les disques rayés, hein, qui toc, hop, et on revient, toc, 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 et voilà. Et là, on a deux groupes qui chacun part sur ses disques rayés sans du coup écouter ce que dit l'autre. Ouais. Et on va entendre les mêmes arguments habituels, parfois la même colère et parfois les mêmes insultes habituelles. Je pense qu'on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, par exemple. J'ai trouvé qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait un certain nombre de propositions assez intéressantes. Mais très rapidement, on a vu que chacun partait sur son disque. Et les mêmes disaient la même chose qu'ils avaient dit avant que les Gilets jaunes existent, et qu'ils diront peut-être encore dans 50 ans. Ouais, on entendait les mêmes arguments par les mêmes personnes, qui tournaient en boucle, et on a l'impression que personne n'écoute personne. Ouais. On connaît parfois ce fonctionnement quand on essaye de parler de notre foi. On est parfois confronté à des personnes qui vont partir sur leur disque, pop, leurs arguments contre les chrétiens. Et c'est très frustrant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de rencontre possible, finalement. Plus si je vous ai déjà donné cet exemple, mais je me rappelle, à un moment, j'étais dans un stand d'évangélisation où on vendait des Bibles, dans un centre commercial, et il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a fait un long discours contre le pape. Alors je crois qu'il a parlé à peu près une demi-heure. Hein. Puis au bout d'un moment, il a fait juste une pause un peu plus longue, j'ai pu glisser. Vous savez, je suis protestant, ça ne me concerne pas. Il s'est arrêté, « Oh, je suis désolé », puis il est parti. Bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment de rencontre dans cette affaire. Hein. Vous voyez, hein, les disques rayés. Hein. Et quand même, parce qu'on est un peu entre nous, il faut avouer que quand je parle avec des amis non-chrétiens, très souvent, ce qu'ils nous reprochent à nous, évangéliques, c'est de partir sur nos disques rayés. sur le disque Jésus, sur le disque tu dois te convertir, vous voyez. Et très souvent, j'ai des amis non-chrétiens qui disent « Mais je ne sais vraiment pas comment parler avec ces évangéliques. » Savons-nous vraiment dialoguer ? Dialoguer, entrer en relation. Bien sûr, ensuite, parler de notre foi, hein, mais d'abord entrer en relation. Ou est-ce que nous sommes juste des perroquets qui répètent ? Bon, vous avez un peu la manière de faire si vous avez envie de court-circuiter le débat, détourner la question, utiliser les mots piégés, diviser pour affaiblir. Vous voyez que c'est ce que fait l'apôtre Paul ici. J'ai précisé, c'est en cas de danger. Ça nous arrive parfois, mais c'est quand même relativement rare, en fait. Hein. Mais parfois, on part quand même sur ce type de débat-là, alors que peut-être ça ne mériterait pas. Si on veut dialoguer, il faut absolument trouver une autre approche où il peut y avoir un dialogue juste et équitable. Ici, l'apôtre Paul sait très bien que les dés sont pipés, qu'il n'y a de toute façon aucune recherche de discussion et d'arguments, il peut dire ce qu'il veut, en fait, de toute façon, voilà, non ? Et donc, l'objectif de Paul, c'est de faire tomber le débat à l'eau. On comprend bien, il n'a pas envie de se faire couper la tête. Hein, ça, non. Maintenant, j'aimerais quand même préciser que dans la suite, ou dans le reste du livre des Actes, on voit que Paul utilise extrêmement rarement cette approche. Il l'utilise vraiment quand il est en danger. La plupart du temps, il va essayer, d'une manière ou d'une autre, de quand même pouvoir expliquer tranquillement et calmement son point de vue, qui est quand même l'approche habituel. Alors, je vous propose de voir quelques éléments, comment tenter quand même d'éviter de partir sur les disques rayés. Il me semble, personnellement, bon, à part le fait qu'il faut évidemment éviter un peu les mots piégés, c'est parfois bien de les connaître et de savoir quel est le mot qu'il ne faut surtout pas dire à votre femme, par exemple, mais le point principal, c'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Parfois, il est bon de se noter pour soi-même qu'est-ce qui est l'essentiel. Voilà, marquer 2 ou 3 mots-clés et les avoir par écrit parce qu'on sait bien comment ça se passe. Quand ça commence à partir en vrille, on part aussi en vrille, nous. Hein. Et c'est des fois bien d'avoir un petit papier en disant « Ok, stop, on s'est dit plein de trucs qui n'étaient pas top, mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est ça. » Par exemple, pour notre femme ou notre conjoint, j'aimerais que tu retiennes en premier lieu que je t'aime, par exemple. Hein. Ça serait parfois bien de le dire en cours de route. Ouais, parce que nous avons tous cette tentation d'être, on va dire, appelés par les mots piégés. Parfois, il faut un peu borner le débat, mettre un cadre précis, pour garantir, par exemple, un temps de parole équitable pour chacun. Je crois que je vous avais déjà parlé de cette méthode, hein, qui est souvent utilisée pour les couples, ou pour les familles en général, de se fixer des rendez-vous où chacun, à tour de rôle, a droit à 30 minutes de parole. Et les autres l'écoutent, sans l'interrompre. Et puis après, hop, c'est au suivant. Vous voyez ? Ça permet d'éviter l'enfermement classique, ça fait aussi partie des disques rayés, hein. Un tel passe son temps à faire des reproches, puis l'autre à se refermer sur lui-même et à plus rien dire. Ouais, faut aussi de disques rayés, vous connaissez ça. Parfois c'est bien de dire, on va mettre un cadre très strict où chacun a le droit de s'exprimer de manière libre, sans se faire tout de suite taper sur le dos par exemple. Et puis un autre point important, c'est rester dans le concret. Vous avez vu dans ce passage-ci qu'on ne reste pas du tout dans le concret justement. C'est juste l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire à ce niveau-là. Hein. Chacun des camps va commencer à supposer toutes sortes de choses et de pensées dans l'autre camp. Paul devient brusquement innocent parce qu'il fait partie de mon groupe. Et on n'est plus du tout dans le concret. Vous l'avez vu dans le texte qu'on avait vu avec Jean-Yves la semaine dernière, que Paul, quand il veut avoir une discussion ou un semblant de discussion, il va essayer d'être très très concret. Il parle d'éléments concrets. Ce jour-là, voilà ce qui s'est passé. Oui ? Et pas partir sur des grandes généralités. On dit très souvent que dans les relations de couple, par exemple, il faut bannir le mot « toujours ». Tu es toujours, tu fais toujours, tu dis toujours. Là, vous savez que vous allez partir en vrille. Restons dans le concret. Tu viens de dire ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il me semble que j'ai mis une petite image. J'espère que vous arrivez à lire quelque chose. Les 6 fondamentaux pour envenimer le débat. Voilà, ça c'était bon. Tiré d'un bouquin que j'aime bien. Alors, elle dit, en colère, qui est en colère ? Je suis parfaitement sereine. Je ne suis pas en colère. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, pas le moins du monde. Et lui, il répond, tu es impossible, tu l'as toujours été, et tu le seras toujours, et tu n'écoutes jamais, j'abandonne. Ouais, c'est pas mal, hein ? Et voilà les 6 conseils à ne pas faire. Ne tenez pas compte de vos sentiments, laissez votre estomac s'en charger, répétez sans cesse « je ne suis pas en colère ». Appliquez-vous à marquer des points contre votre adversaire. Alors déjà, c'est son adversaire, hein, c'est plus... Bon, bref. Bon, pardon. Adressez à votre conjoint les reproches les plus sévères et les plus brouillons possibles. Quittez la pièce pour aller gémir sur votre sort. Voilà, bon, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pour compléter plutôt ce qu'il faut faire, permettez-moi de donner un exemple sur notre vie d'église. Alors, c'est toujours un peu piégé parce que je vais évidemment vous donner mon point de vue très subjectif, si j'ose dire ça comme ça. Il y a 5 ans, je me suis rendu compte, mais le conseil d'église avec moi, qu'il y avait un mot ou une expression piégée dans l'église. La crispation, c'était autour de la durée des cultes. On ne pouvait pas parler de la durée des cultes, ce n'était pas possible. Là, on partait ploup, sur les discréés. Ouais. Et j'avais tout le temps, au moins 3 fois à la fin du culte, voilà, certains qui venaient avec beaucoup de colère me dire « le culte est trop long » et d'autres qui venaient me dire avec beaucoup de colère « le culte est trop court ». Et souvent à dire toutes sortes de choses sur le camp adverse, voyez, hein. Comprenez un peu ce type de fonctionnement. Hein. Et la question c'était « qu'est-ce qu'on en fait ? On ne peut pas en rester là ». Il y a un moment donné, il faut qu'on puisse se parler. Donc on a essayé d'appliquer ces méthodes-là. C'est beaucoup Stéphane qui a travaillé d'ailleurs là-dessus. Hein, qui était, bah oui, la première règle, c'est on va essayer de revenir à l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche matin ? On ne se réunit pas pour regarder sa montre. On se réunit pour adorer Dieu et pour être édifié par l'étude de la parole de Dieu. Ouais, donc c'est ça qu'on doit dire. Comment vivre un culte où on adore Dieu et où on est édifié ? Et on a rejeté un autre essentiel, un culte qui soit accueillant, où des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons différents retrouvent leur marque. Et on a parlé de ça. On n'a pas parlé de la durée du culte. On pouvait de toute façon pas en parler, mais de toute façon, ce n'était pas ça l'important, finalement. Donc on a passé une bonne après-midi, j'ai trouvé, avec des débats très constructifs. À la fin, quelque part, je ne sais plus exactement comment, est arrivée la décision que les cultes devaient durer entre 1h30 et 1h45. C'était la décision qui est sortie comme ça. Mais ce n'était pas de ça qu'on a parlé. On a parlé de l'essentiel. À quoi ça sert d'être ensemble le dimanche matin ? On veut des cultes qui nous édifient, qui nous poussent à l'adoration, et quelque part où le plus de gens possible sont à l'aise pour avancer avec Dieu. Je ne veux pas dire qu'on arrive à tous les cultes à faire ça. Hein. Je dis simplement, pour moi, c'est un bon exemple qu'on a pu s'en parler. On a pu dépasser une situation qui était bloquée. Alors évidemment, par la suite, plein de gens sont venus pour réclamer du rab, que ça soit un peu plus long, que ça soit un peu plus court, ça c'est normal, hein, voyez, on n'a pas obtenu forcément ce qu'on voulait. Mais voilà, mais la réponse était toujours la même. Pour l'instant, c'est ainsi. On a parlé entre nous et on a pris une décision ensemble. Le culte, c'est pas un qui décide pour les autres, voyez, c'est on décide ensemble. Et pour ça, il faut qu'on puisse se parler. Pour vous donner un autre exemple, je connais une église évangélique qui s'est coupée en deux suite à un accrochage sévère dans une AG. Le débat, c'était, doit-on mettre des bancs ou des chaises ? Vous voyez ? Ils n'ont vraiment pas réussi à parler de l'essentiel. Ils sont restés sur les disques rayés autour des chaises et des bancs, et l'église a explosé. Voilà. Ça arrive, malheureusement. Mais, comme dit, vous connaissez ça dans les familles, ce qui peut se passer quand on part sur nos vieux disques rayés. Voilà. J'aimerais prendre un mauvais exemple et faire une prédication un peu trop longue. Bon, il me semble important d'aller un tout petit peu plus loin. Parce que, dans la suite du passage, on ne va pas lire l'entier, je vais juste un peu vous le raconter, on voit la manière à la fois quand Paul réagit et à la fois comment les gens du Sanhédrin réagissent après. Vous voyez ? On a vu comme Paul a géré la chose quand il était dans le Sanhédrin, mais je trouve important de voir la suite, de voir ce qui se passe après. La première chose manifestement que Paul fait, c'est qu'il prie. Il demande au Seigneur ce qu'il en pense. Et je trouve que ça, c'est très sage. Il y a eu quand même une situation assez chaude, on va dire ça comme ça. Hein ? Et dans ce genre de situation assez chaude, notre tendance, c'est de se passer le film en boucle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est soit j'aurais dû dire ça ou j'aurais pas dû dire ça, soit il aurait vraiment pas dû dire ça. Vous voyez ? Puis on part soit dans la culpabilité, soit dans l'amertume à choix. Ouais. Vous voyez ici, Paul fait quelque chose de beaucoup plus sage. Il va demander à Dieu ce qu'il en pense. Et demander à Dieu quelque part de remettre nos émotions et nos pensées à leur place. C'est pas parce qu'on a gagné un débat qu'on en sort indemne finalement. Et je trouve que la réponse du Seigneur est très touchante, je trouve. Il va répondre sur 3 points. Le premier, c'est courage. Courage. Je pense que Paul en avait bien besoin, après ce qui s'est passé dans le Sanhédrin. Il a peut-être gagné le débat, mais je pense qu'il en sort quand même un peu lessivé. C'est quand même pas tout simple d'être en face de 70 personnes qui veulent votre peau. Ensuite, Jésus va lui dire « Tu as été témoin à Jérusalem ». Voilà un bel encouragement. Il vient de passer une réunion avec beaucoup de brouhaha, de cris, de colère. Et sans doute, Paul doit être en train de se demander « Mais est-ce que mon approche était la bonne, quoi ?» Et Jésus semble lui dire « Mais tu as quand même pu témoigner ». Il n'a pas pu témoigner beaucoup, hein. Il a juste dit qu'il espérait la résurrection. À peu près tout ce qu'il a réussi à dire, Paul. Hein. Mais voyez comment Jésus va l'encourager en disant « Tu as été témoin à Jérusalem, t'as fait le job, quoi ». Et il va lui annoncer qu'il sera témoin à Rome aussi. Ça va aider Paul dans ses choix pour la suite, mais ça viendra après. On a besoin d'encouragement de la part du Seigneur. On a besoin régulièrement qu'il vienne nous dire ce qu'il pense de ce qui s'est passé. Je pense que c'est vraiment précieux de prendre du temps pour ça. Pour se placer devant le Seigneur, on dit « Qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Alors, dans la suite, je ne vais pas vous raconter tout, parce que je vous lis quand même quelques extraits ou pas. Bon, oui, je vais juste vous lire le verset 12, parce que je trouve que c'est intéressant. Vous vous rappelez cette approche de l'apôtre Paul, où il va balancer un mot piégé dans l'assemblée, et ça part en vrille. L'apôtre Paul s'en sort, mais qu'est-ce qui se passe juste après ? Le lendemain matin, au petit jour, les Juifs formèrent un complot. Ils firent le serment de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors bon, peut-être quand même raconter la suite avant de raconter ce qui se passe ici. Quand même dire que Dieu va intervenir ici aussi pour protéger Paul. Parce que le neveu de Paul va entendre parler de ce complot, il va prévenir le commandant militaire qui va prendre ça très à cœur. Il va quand même mobiliser 400 soldats plus 70 cavaliers. Les cavaliers, c'est les troupes commando, hein, les troupes spéciales d'aujourd'hui, hein, pour, quelque part, exfiltrer Paul en sécurité et l'emmener jusqu'à Césarée, qui est la capitale romaine du pays. Qu'est-ce qui se passe ici ? D'abord, la première chose qu'on voit, c'est que quand il y a la colère qui prend les choses en main, la colère change facilement de cible. On a commencé l'épisode avec tous contre Paul. Ensuite, Paul a réussi à dévier les choses pour s'asseoir pour ou contre la résurrection. Et maintenant, c'est de nouveau tous contre Paul. Vous voyez, la colère a de nouveau changé de camp. Des gens qui se sont écharpés juste avant sur la question de la résurrection, ils sont de nouveau copains comme cochons dans le but de tuer Paul. Méfions-nous toujours de la colère, parce qu'elle est contagieuse, mais aussi parce qu'elle n'aide pas forcément à être très sage. Ouais. Si la maîtrise de soi est un don de l'esprit, c'est pas forcément pour rien. Nous avons vite tendance à nous laisser empiétrer dans notre propre colère, mais aussi parfois à glisser dans la colère des autres. Dans ce passage, Paul est la cible de la colère, à la fois parce qu'il cristallise les rivalités entre les chrétiens et les juifs, il cristallise les rivalités entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, et il cristallise encore, sans doute, toutes sortes de frustrations de toutes sortes et de jalousies de toutes sortes. Oui ? Mais voyez qu'il n'y a aucun point où les choses sont vraiment abordées. Qu'est-ce que Paul a réellement fait pour mériter la mort ? Ce qui est sûr, c'est que Paul doit mourir. Et sans doute, on a derrière l'idée que si Paul meurt, il n'y aura plus de problème. On ne sait pas trop pourquoi ni comment. Bon, on ne sait pas trop, hein ? Mais voyez, c'est comme ça que la colère fonctionne. On trouve une cible à notre colère et il suffit que ce problème disparaisse et puis tout est résolu. Voyez bien ici qu'on nous dit que justement, rien n'est résolu si on n'en a pas parlé. Quand l'apôtre Paul lance un peu les deux groupes sur la question de la résurrection, vous voyez que rien n'est réglé du tout. Il suffit que Paul ressorte et puis on est reparti comme avant. Rien n'a été réglé du tout. J'ai marqué ça en résumé. La colère est contagieuse et donc les alliances peuvent être mobiles. Il peut y avoir des engagements absurdes. Dans la suite du passage, il y a tout un groupe de juifs qui font la promesse de ne rien manger tant que Paul est vivant. On a aussi des cibles mouvantes, on cherche le responsable, mais le responsable, ça peut changer assez vite. Et il peut y avoir souvent des solutions assez simplistes. Voilà, j'en arrive à la conclusion. On est dans une situation particulière, une situation de danger de mort. Et la solution la plus sage dans ce cas-là, c'est déplacer le débat. Il faut être aussi clair avec ça, lorsqu'on déplace le débat, on ne résout rien du tout. Paul a juste gagné un peu de temps. Ça lui a sauvé la vie, hein. Mais rien n'a été résolu. Il a juste gagné un peu de temps, le temps pour qu'il soit mis en sécurité. Dans la plupart de nos situations de vie, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Et notre boulot, c'est plutôt de chercher à s'asseoir calmement et de trouver un moyen pour qu'on puisse s'écouter mutuellement. Ouais. Et ce n'est pas toujours simple.